J'ai retenu pour notre méditation ce matin un passage de l'Évangile selon Marc. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, je vous lirai les versets 38 à 48. C'est Jean qui prend la parole et s'adresse ainsi à Jésus. Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Quiconque n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un faisait chuter un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Seigneur, ta parole est la vérité, alors fais-nous entendre ta parole et sanctifie-nous par la vérité. Amen. C'est le cantique 426 qu'on nous annonce, les strophes 1, 2 et 3 du cantique 426. Levons-nous pour célébrer l'Éternel. Éternel notre Dieu, toi qui par ton esprit assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Chers frères et sœurs, il y aura ce soir des déçus parmi nous, autour de nous. Il y aura, outre les candidats à l'élection présidentielle qui n'auront pas réussi à obtenir assez de suffrages pour être présents au second tour, des militants, des électeurs qui avaient fondé des espoirs dans une candidature qui ne pourra pas aboutir. Outre cette déception, celle de ne pas avoir son champion qui peut se qualifier pour le second tour, il y aura certainement aussi de l'amertume et un risque, le risque d'une forme de déchirement de la communauté nationale. Depuis longtemps déjà, retentissent des arguments de campagne en forme de tout sauf lui, en forme de « surtout pas elle » et, peut-être pour un trop grand nombre d'électeurs, la campagne présidentielle se commue en une sorte de jeu de massacre par lequel on entend éliminer celui, ceux dont on ne veut pas. Mais, dans une élection, il ne s'agit pas de recaler. En premier lieu, il s'agit d'élire. Il s'agit de faire porter sa voix sur un candidat dont on pense qu'il saura donner une direction convenable au pays. Dans 15 jours, une personne va être élue pour présider en notre nom et faire les grands choix pour notre avenir politique. Mais il n'aura pas nécessairement notre couleur politique. Il ne suivra pas nécessairement nos vœux et nos espoirs. Il ne nous suivra pas forcément. Pour certains, cette perspective est assez insupportable. D'autres ont pu dire qu'ils quitteraient le pays selon qui serait élu. Il y aura, dès ce soir, parmi nous, autour de nous, des déçus qui n'auront pas leur candidat préféré au second tour. Il y aura de la frustration, tandis que d'autres jetteront leur dernière force dans le sprint final. Et il y aura donc un risque de déchirement. Les communautés ecclésiales ont montré leur capacité à dépasser cette forme de risque. À ne pas éclater, à ne pas exploser en plein vol, pour des questions de clivage politique, sauf en de rares exceptions. Le religieux me semble être en mesure de pouvoir aider la communauté nationale à ne pas se défaire en pareille situation. Là où le politique en est incapable en période électorale. Le politique n'est pas en mesure de pouvoir seul protéger la communauté nationale parce que, pour l'heure, le politique est d'abord obsédé par lui-même. Il pense à son élection. Et lorsqu'il y a des discours de rassemblement, ce sont des discours destinés à rassembler une majorité. La deuxième raison pour laquelle le politique n'est pas actuellement, pour l'heure de la campagne, en mesure de pouvoir aider la communauté à ne pas se défaire, c'est que le politique est dans l'ordre du pragmatique et non pas dans un registre symbolique. Le programme politique, les programmes politiques, ne construisent pas actuellement une communauté. Ils construisent des partis. Parce que le politique est dans le registre du faire. Et le faire, l'agir, s'oppose radicalement à ce qu'est une communauté. Et cela, je vais essayer de m'en expliquer. Dans l'épisode biblique qui oppose Jésus à ses disciples, la question tourne autour du « qui est avec nous ?» Comment se constitue une communauté ? Eh bien, ce que Jésus présente comme communauté, comme modèle de communauté, est absolument minimaliste. Cela ne repose sur aucun talent, sur aucune performance, sur aucune adhésion, sur aucun choix, sur aucun programme, sur aucune promesse. Sinon, celui de ne pas être dans une attitude d'hostilité. La communauté que décrit Jésus se caractérise par son défaut d'activisme, par son défaut d'une connaissance partagée, d'un bien commun. Cette communauté ne se caractérise même pas par une forme de communion. Ce que Jésus propose, c'est une communauté de l'absence. Absence d'hostilité, absence d'aversion. C'est une communauté qui n'agit pas. C'est une communauté qui ne fait pas. C'est une communauté qui ne produit pas. On pourrait presque reprendre les termes du philosophe Jean-Luc Nancy qui parle de la communauté désœuvrée, une communauté sans œuvre. La véritable communauté ne se choisit pas. Et c'est pour cela que la communauté ecclésiale est un élément intéressant d'observation. Car ce matin, vous êtes là sans vous être choisis mutuellement. La communauté ecclésiale est l'exemple même de la communauté qui s'offre et qui se reçoit, mais qui ne se construit pas. Notre sacristain n'a pas fait la sélection à l'entrée du temple en disant « tu rentres, tu ne rentres pas ». Nous n'avons pas demandé à quiconque des preuves de sa bonne créance. Nous n'avons pas demandé vos lettres de dignité. La véritable communauté ne se choisit pas, elle ne se construit pas, elle est là, donnée par grâce seule. La communauté, nous ne pouvons qu'en faire que l'expérience. Parce que si la communauté était une construction, la construction par quelques-uns ou par tous, cela signifierait que l'on fabrique l'être commun, qu'on le construit, qu'il est donc artificiel en quelque sorte. Et dans ce cas, le résultat de cette production, le résultat de cette fabrication aurait autant d'existence communautaire que les bustes en plâtre de Marianne. Lorsque les hommes s'associent pour faire communauté, lorsqu'il y a un projet de communauté, lorsqu'on veut ardemment faire communauté ensemble, c'est-à-dire lorsqu'il y a un désir de communisme en fait, cela se réalise dans le registre du faire. Et dans le registre du faire, il y a toujours une part de violence. La communauté se fait sur le dos de quelqu'un, le bouc émissaire, qui canalise contre lui l'hostilité d'un groupe qui va ainsi communier par une violence partagée. Selon la logique, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Si vous êtes contre mon ennemi, alors vous êtes pour nous. C'est la logique inverse de celle que Jésus propose. Si vous n'êtes pas contre nous, alors vous êtes pour nous. Jésus nous révèle que la communauté, ce n'est pas quelque chose de construit, d'édifié. La communauté nous est donnée. La communauté nous est offerte. Nous ne pouvons en faire que l'expérience. Elle nous est donnée par grâce, et c'est la raison pour laquelle elle est un lieu de désœuvrement, et non pas le résultat d'une production. Et au fond, nous pourrions penser à cet épisode des années 60, qui intervient après la rupture entre Jean-Paul Sartre et Albert Camus, qui s'était entre-déchiré après la publication de L'homme révolté par Camus. Une séparation radicale alors qu'ils étaient amis. Et à la mort de Camus, voici ce qu'écrit Jean-Paul Sartre. Nous étions brouillés, lui et moi. Nous étions brouillés. Ils étaient entre-déchirés. Mais à la mort de Camus, nous étions brouillés, lui et moi. Une brouille, ce n'est rien. Dût-on ne jamais se revoir. Tout juste une manière de vivre ensemble, sans se perdre de vue dans le petit monde étroit qui nous est donné. Cela ne m'empêchait pas de penser à lui, de sentir son regard sur la page du livre, sur le journal qu'il lisait, et de me dire « Qu'en dit-il ? Qu'en dit-il en ce moment ?» La communauté, nous ne pouvons qu'en faire l'expérience. Et l'expérience, nous la faisons en particulier par l'expérience de la finitude. C'est l'expérience de Sartre au moment de la mort de Camus. Cela signifie que ce soir, dans 15 jours, alors qu'il y aura une très grande dispersion des voix, l'identité de la communauté ne sera pas pour autant atteinte. La communauté nationale ne sera pas pour autant blessée parce qu'il y a une dispersion des voix. L'image de l'homme qui ne suit pas les disciples et qui pour autant ne brise pas la communauté aux yeux de Jésus en est une figure exemplaire. Pour autant, nous sentons bien qu'il peut y avoir des déchirements, en tous les cas des éraflures, parce que le clivage politique expose la communauté. Et que même si l'identité de la communauté persiste, en dépit de ce qu'elle peut donner à montrer, il y a des soins qu'il faut essayer de lui prodiguer. Alors nous pouvons le faire en rappelant que la communauté nous précède, qu'elle n'est pas le résultat d'une harmonie, qu'elle n'est pas le résultat d'accords de gouvernement, qu'elle n'est pas le résultat de ralliements, surtout quand ces ralliements se font contre quelqu'un. Toutes ces stratégies sont tout à fait légitimes dans le contexte électif, mais elles sont partisanes et elles n'aident pas la communauté, la grande communauté. Alors l'autre moyen qui consiste à aider la communauté, qui consiste à prendre soin d'elle, correspond à ce qui fait l'essentiel de cet épisode biblique et qui consiste d'un côté à chasser les démons et de l'autre à arracher tout ce qui nous fait chuter. Alors évidemment, si je vous dis comme ça d'emblée que dans les 15 jours qui viennent et dans les mois qui suivront, ce qu'il nous faut faire, c'est de chasser les démons, vous allez me prendre pour une forme d'illuminé, un gentil illuminé. Et aussitôt que vous aurez quitté le temple, vous direz « maintenant, passons aux choses sérieuses ». Il reste que ce texte biblique présente la chasse aux démons comme une activité tout à fait recommandable. Et je ne vois pas pourquoi nous devrions faire l'impasse sur cette question. Mais nous devons essayer de comprendre ce qui se trame derrière cette chasse aux démons qui se concrétise par le fait de couper le pied, couper la main, arracher l'œil. Et alors, il me semble que lorsque l'on veut comprendre ce dont il s'agit, le mieux est encore d'interroger l'un des spécialistes en la question, l'un des maîtres sur la question des démons, l'un de ceux qui les a le plus observés et affrontés, parce que la culture dans laquelle il vivait était tout imprégnée de cette métaphore, Dostoïevski. À la lecture de son livre au titre suffisamment éclairant, Les démons, des fois mal traduit par les possédés, nous comprenons que le démoniaque est une image pour rendre compte d'un courant qui s'est particulièrement manifesté dans la Russie du XIXe siècle, le nihilisme. Cette forme de pensée fascinée par le rien, par le néant, par la mise à mort, notamment la mise à mort des structures institutionnelles traditionnelles, mais aussi par l'éradication de toute forme de transcendance, par tout ce qui pourrait être autre chose que l'humain qui se donne à voir dans l'immédiat. Le démoniaque dans les textes bibliques, c'est ce qui réduit à rien l'espérance des hommes et des femmes qui sont possédés et dont la personnalité est bridée et qui ne peuvent faire valoir les talents que Dieu leur confie. Chasser les démons donc, mais oui, chasser les démons, chasser le nihilisme. Cette forme de rapport au monde qui vide la communauté de sa substance symbolique, qui évacue l'idée que l'homme est plus que lui-même, l'idée que l'homme est en construction, que l'homme est en devenir, qu'il n'est pas encore le dernier homme. C'est ce programme qui peut se réaliser avec les trois recommandations que Jésus adresse à ses disciples. Arrache ton œil s'il te fait chuter, s'il t'empêche de progresser dans la vie. Si nous avons deux yeux, c'est pour voir en relief, c'est pour voir en trois dimensions, c'est pour qu'il y ait une profondeur de champ et donc une profondeur de vue. C'est pour mettre les choses en perspective. Si en réalité, nous écrasons tout, que tout a la même valeur, que la gratuité du permis de conduire a autant d'importance que la politique énergétique ou que les rapports internationaux. Et au fond, c'est quand nous pensons avoir tout à disposition, alors que certaines choses sont encore au loin, qu'elles ne sont pas encore réalisées, qu'il faut encore frayer son chemin pour y parvenir, que nous commençons à chuter. Arracher notre œil qui nous trompe, qui nous fait croire que tout est là à disposition. Arracher notre œil qui nous trompe sur la hiérarchisation des faits. Cesser de vivre dans l'illusion que nous avons conscience que ce sont là des gros cailloux pour notre vie, alors qu'en fait nous n'arrivons même pas à la distinguer des décombres et du petit sable. Arrache ton pied s'il te fait chuter, s'il t'empêche d'avancer dans la vie. Nous avons deux pieds non pas simplement pour avancer d'ailleurs, mais aussi pour franchir les obstacles, pour les enjamber. Et si en réalité notre pied bute constamment sur la première difficulté venue ou s'il se prend dans le premier tapis venu parce qu'il a perdu sa souplesse, alors nous serons condamnés à faire du surplace. Et à force de piétiner, nous creuserons notre propre trou. Arracher son pied, c'est mettre fin à l'illusion selon laquelle nous serions arrivés au bout de notre chemin. Alors qu'en réalité, il y a encore beaucoup à parcourir. C'est mettre un terme à l'illusion qu'on est au bout de nos limites, qu'on a atteint les frontières acceptables, qu'au-delà, c'est le barbare, l'inconnu, l'infréquentable. Que nous sommes là, à la frontière, que nous ne transgresserons pas parce qu'après, ce n'est pas vivable. C'est sortir finalement parfois du caniveau qui jusque-là nous tenait lieu de bordure. Arrache ta main si elle te fait chuter. Si elle t'empêche de t'élever dans la vie, nous avons des mains pour agripper. Et dans la perspective biblique, la main est l'instrument de prédilection pour aider d'autres personnes. La main de Dieu accomplit de nombreuses libérations. Elle sort du gouffre, elle sort du trou. Elle nous permet de reprendre un peu de hauteur. Elle nous permet de respirer, elle nous permet de nous libérer de certains carcans. La main, c'est l'entraide, c'est la solidarité. La main de Dieu atteste la possibilité de solidarité. Si notre main est incapable d'une quelconque solidarité, si elle nous fait croire qu'il n'y a rien à prendre, rien à saisir, personne à aider, alors autant la rejeter, car elle pourrait nous donner l'impression que la solidarité n'a plus sa place dans notre quotidien. Ainsi, frères et sœurs, en un temps où la communauté nationale peut être fragilisée par les risques de clivage et de déchirement, il n'est certainement pas inutile de rappeler avec une certaine forme de force et de conviction que la communauté nous précède, qu'elle n'est pas le fruit de nos petits arrangements et de nos combines, que la communauté nous est donnée, qu'elle n'est pas à construire mais plutôt à retrouver lorsqu'elle semble disparaître derrière des discours partisans, derrière des attaques qui stigmatisent. Elle est à retrouver à la manière de Sartre qui la retrouve dans l'expérience de la finitude. Tel candidat n'est peut-être pas de notre bord politique. Cela ne le disqualifie pas pour autant. Il nous faut peut-être nous libérer des étiquettes qui réduisent les personnes. Il nous faut peut-être cesser d'être comme ses disciples qui, au prétexte que cet homme ne nous suit pas, n'est donc pas avec nous et n'est donc pas pour nous. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a des comportements, des discours, des promesses qui peuvent tendre à désagréger la communauté et à la vider de sa substance. Alors, contre cette attitude qui confine au nihilisme, nous avons cette triple recommandation de Jésus qui peut nous éviter de sombrer dans les flots du renoncement aussi vite qu'une personne qui aurait à son cou pendu une meule en pierre. Nous avons une recommandation en forme de trois protestations. Trois protestations sur trois aspects fondamentaux de ce qu'est la capacité d'une communauté. Premièrement, protester, témoigner en faveur de la capacité que nous avons à hiérarchiser les questions, à dégager les enjeux de tel ou tel sujet, au lieu de considérer tout de manière égale, tout de manière écrasée, aplatie. Et c'est notre devoir de redonner au sujet leur véritable importance. Deuxièmement, la capacité à aller au-delà des lieux où nous nous trouvons, au-delà des lieux communs, au-delà des lieux où, parce qu'il y a de la lumière, tout le monde s'y retrouve, à sortir de notre état, de ne pas nous contenter de notre état et encore moins de l'état dans lequel on voudrait nous laisser. Troisièmement, envisager la solidarité comme axe essentiel de toute vie publique. Voilà un triptyque pour nous aider à ne pas croupir sur place ou, pour reprendre l'image du texte biblique, à ne pas être comme le ver qui se condamne à brûler à perpétuité dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est un triptyque pour nous aider à penser la communauté au-delà des bricolages communautaires et partisans. Amen.